Bonjour à tous et bienvenue pour le 12e numéro de Sans langue de bois, votre émission politique sur les ondes de Transistor. Bonjour et surtout, bonne année! C'est le moment de prendre de bonnes résolutions et si vous n'avez pas d'idées, faites comme Alphonse Allais qui disait « Je ne prendrai pas de calendrier cette année car j'ai été très mécontent de celui de l'année dernière ». La semaine dernière, donc, nous vous proposions une édition un peu particulière du grand journal politique de la rédaction.
Un petit peu particulière, c'est le mot juste.
Émission bilan, donc, pour revenir sur le meilleur et sur le pire de l'actualité politique de l'année qui s'achève. Et on continue dans cette veine. Voici la deuxième partie de notre bilan politique de l'année 2012. Et on ne change pas les bonnes habitudes. C'est Thomas qui vous en dévoile le programme. Bonjour Thomas.
Bonjour Marie-Ève, bonjour à tous et bonne année. Émission spéciale bilan 2012, deuxième partie, retour sur une année chargée en politique. 2012, année présidentielle évidemment, mais pas seulement. 2012, c'était également l'année internationale du développement durable et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on a très peu, voire pas du tout entendu parler de cet événement. 2012, ce fut pourtant l'année des grands sommets de la Terre, ceux de Rio et de Doha, mais des sommets qui se soldèrent par des échecs. Colline Allier revient sur cet événement, elle l'analyse et vous montre qu'il est passé inaperçu. Après la femme politique de l'année, la semaine dernière, nous élirons cette semaine l'homme politique de l'année. Puis, Jérôme Bastic nous proposera un Vue d'Europe spécial bilan 2012. Enfin, pour ces émissions spéciales, nos quatre éditorialistes nous présentent leur bilan politique de l'année 2012. La semaine dernière, vous avez entendu celui de Caroline Bouchier et celui de Louis Dubost. Cette semaine, place à la plume d'Amos et de Thibaut Sardier. Et on tient un scoop pour cette fin d'année en exclusivité sur Transistor. 2012 était l'année internationale du développement durable.
Chérie, j'ai oublié le développement durable. Un sujet préparé par Colline Allier. Bonjour Colline.
Bonjour.
2012 a été décrétée année internationale du développement durable en décembre 2010 par l'ONU. C'est donc au niveau international qu'il devait être appliqué avec les mesures qui s'en suivaient. Pourtant en France, qu'il s'agisse des membres du gouvernement chargés de l'écologie ou non, ou de la scène médiatique, personne n'a abordé le sujet.
C'est donc en avant-première nationale, avec... presque un an de retard tout de même, que nous étudierons ce concept d'année du développement durable et en analyserons le bilan.
Le discours tenu par l'ONU sur cet événement était pourtant clair et prescriptif. Il enjoignait tous les États membres à saisir l'occasion qu'offrira la célébration de l'année pour réaliser les objectifs de développement arrêtés au niveau international et assurer un développement durable et la protection du climat à l'échelon mondial, de s'attaquer à la question de l'énergie, et notamment de généraliser les services énergétiques modernes, de donner accès à une énergie d'un coût abordable, de veiller à l'efficience énergétique et à la durabilité des sources d'énergie et de leur utilisation, et d'encourager la prise de mesures au niveau local, national, régional et international.
Il faut dire que la situation est alarmante, Colline.
Tout à fait, Thomas. En termes d'énergie, plus de 3 milliards de personnes sont tributaires de la biomasse traditionnelle et du charbon pour cuisiner et se chauffer. Ce qui, en plus d'engendrer une pollution atmosphérique importante, provoque des risques sanitaires non négligeables. De surcroît, 1,5 milliard ne dispose tout simplement pas de l'électricité. Et même lorsque des services énergétiques modernes sont disponibles, ils peuvent être trop coûteux pour des millions de personnes connaissant des difficultés économiques.
En termes environnementaux, les modes actuels de production et de consommation d'énergie fossile, c'est-à-dire non durable, menace l'environnement à l'échelle locale et mondiale.
En effet, les émissions de la combustion fossile sont la cause principale du changement climatique, de la pollution de l'air urbain, de l'acidification des sols et de l'eau. La réduction des émissions de carbone liées à la consommation d'énergie est une priorité.
Surtout à court et moyen terme, c'est la question du changement de modèle énergétique qui se fait de plus en plus pressante. Les ressources énergétiques fossiles étant par définition vouées à disparaître, et ce, d'ici un demi-siècle, selon des estimations plus ou moins optimistes.
Exactement, Thomas. En 1973 déjà, Jimmy Carter, alors candidat à la Maison-Blanche, le déclarait. Nous sommes en 2013, rien n'a été fait. Le changement de société n'a pas l'air d'être pour maintenant.
C'est contre cela que l'ONU veut lutter. Et c'est pourquoi elle a mis cette année 2012 sous le signe de l'écologie, afin de penser des sources d'énergie renouvelables et d'améliorer l'exploitation et la consommation des combustibles fossiles, notamment par le biais d'une coopération entre les pays développés et ceux en voie de développement.
Pourtant, 2012 fut plus synonyme de fiasco écologique que de symbole de la poursuite d'un développement durable. Nous sommes bien loin du premier sommet de la Terre en 1972 à Stockholm, il y a précisément 40 ans. C'est à cette époque que la notion de développement durable et sa nécessité sont apparues, avec la conscience de la préservation de l'environnement pour les générations futures. Ce souci n'a pas disparu aujourd'hui, mais il s'accompagne d'une désillusion profonde qui semble enrayer toutes les tentatives d'instaurer un développement durable international.
En 2012, Colline, il y a pourtant eu deux sommets de la Terre.
Mais les deux se sont soldés par un relatif échec, tout d'abord lié à l'absence de répercussions et de médiatisation. puis aux problèmes de la politique internationale et des intérêts particuliers des grandes puissances.
Alors le premier sommet de la Terre de cette année internationale du développement durable, Rio plus 20, en rapport avec la première conférence de Rio qui avait eu lieu 20 ans plus tôt, eh bien il s'est déroulé du 20 au 22 juin 2012.
Oui, et bien qu'ayant été considérée comme trop importante pour échouer par Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, cette conférence fut éclipsée par les crises politiques et économiques sévissant dans le monde, selon le New York Times. Constat sombre pour le Guardian. Je cite, « Le temps de l'espoir et de l'idéalisme est fini ».
Puis, une autre conférence internationale sur le développement durable s'est tenue à Doha, la capitale du Qatar, du 26 novembre au 8 décembre.
C'est d'ailleurs surtout à cette occasion que s'est vérifié le poids des intérêts particuliers des différentes puissances. Chaque État défendant ses intérêts et en oubliant par là l'objectif commun. Par exemple, Barack Obama y demanda une rallonge budgétaire de 60 milliards de dollars pour les régions touchées par l'ouragan Sandy. La même somme qui a été refusée aux pays en voie de développement pour les aider à améliorer leur industrie énergétique. Une situation qui crée des rancœurs. On parle de développement durable et c'est la loi du plus fort qui s'applique.
Et ce qui vaut à l'échelle internationale, Colline, vaut également à l'échelle nationale. La France, traversée par des élections présidentielles, personne n'aura pu le manquer, a fait en 2012 de l'écologie le cadet de ses soucis.
En effet, loin derrière le pouvoir d'achat, qui préoccupait 42% des Français selon une enquête BVA, et le chômage, 30%, l'écologie intéressait, à la veille des élections, seulement 3% de la population. Eva Joly, la candidate d'Europe Écologie Les Verts, qui prônait un objectif zéro OGM, zéro gaz de schiste, zéro autoroute supplémentaire, qui voulait en outre atteindre 20% des surfaces cultivées en bio, 100% d'aliments bio dans les cantines, les crèches et les maternelles d'ici 2017, et réduire les pesticides de 50% d'ici à 2018, n'a totalisé, elle, que 2,31% des voix aux élections présidentielles.
Déclin progressif de l'écologie politique en France depuis 2002, où Noël Mamère avait fait un score de 5,25%.
Cela souligne la perte d'importance qu'accordent les Français à l'environnement, chacun des candidats en ayant très peu parlé pendant la campagne. L'explosion de la centrale nucléaire de Fukushima, survenue un an plus tard au Japon, soulèvera le problème du nucléaire français, qui finit par résumer le problème de l'écologie en France.
Pourtant, Colline, si au niveau médiatique, les préoccupations environnementales n'ont pas une place très importante, c'est le moins qu'on puisse dire, des mesures concrètes sont prises.
François Hollande, élu président de la République, a placé Delphine Batho à la tête du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Cette dernière a mis en place une feuille de route de la transition écologique du pays et estime qu'aujourd'hui, 30% des engagements qui y sont inscrits sont déjà tenus. Par exemple, le gaz de schiste ne sera pas exploité dans le quinquennat de François Hollande. Et des systèmes de bonus-malus liés aux impacts environnementaux ont été mis en place sur les automobiles et seront généralisés à toute une gamme de produits. De surcroît, pour encourager l'industrie à verser dans l'écologie, des emplois verts seront créés. D'ailleurs, la recherche d'énergie renouvelable sera valorisée dans l'enseignement supérieur, avec des créations de postes dans ce domaine aussi. C'est donc un bilan plutôt positif en termes d'écologie qu'enregistre le gouvernement de François Hollande après 6 mois.
Des mesures concrètes, mais peu médiatisées et un symbole. Le 6 décembre dernier, le président de la République choisissait Nicolas Hulot comme envoyé spécial du président de la République pour la protection de la planète. Une nomination très controversée, car le personnage l'est tout autant.
Oui Thomas, certains écologistes lui reprochent tout d'abord sa marque, Nicolas Hulot, et ses produits dérivés, son émission télévisée Ushuaïa, qui vulgarise pourtant l'écologie au grand public, et sa fondation pour la nature de l'homme, dont les partenaires sont de grands industriels comme EDF ou L'Oréal.
Plus qu'un acteur de la scène écologiste, contesté soit-il, Nicolas Hulot est une personnalité française connue, c'est d'ailleurs la 10e préférée des Français.
Certes, mais s'il est connu des Français, c'est un inconnu au niveau international. C'est tout ce qui fait redouter une simple opération de communication politique à Daniel Martin, ancien élu Europe Écologie Les Verts, dans une tribune publiée par le Nouvel Observateur destinée à prouver l'importance que l'État accorde à l'environnement auprès de la population et des écologistes.
2012, année internationale du développement durable et à l'échelle de la planète, une grosse déception. Peu de mesures concrètes prises, si on fait le compte.
La désillusion écologique ne fait heureusement pas encore l'unanimité. En France, par exemple, des tentatives discrètes mais concrètes sont faites en termes de développement durable. De surcroît, de nombreuses personnalités s'engagent encore pour la défense de l'environnement. Ainsi, même si les gouvernements ne s'accordent pas entre eux, la population mondiale le pourra peut-être.
Chérie, j'ai oublié le développement durable. Un sujet préparé par Colline Allier.
Alors Colline revenait à l'instant sur l'année internationale du développement durable, passée complètement inaperçue. Pas sûr donc que ce soit un élément qui ait marqué un de nos 4 éditorialistes.
Pour ces émissions bilan, nous avons en effet demandé à nos 4 éditorialistes de nous présenter leur bilan de l'année 2012.
La semaine dernière, vous avez découvert le bilan politique de Caroline Bouchier et celui de Louis Dubost. Cette semaine, place à celui d'Amos Reichmann. Bonjour Amos.
Bonjour Thomas. En 2012, le Parti socialiste a remporté les élections présidentielles et législatives. En 2012, la France a perdu son triple A. En 2012, Nicolas Sarkozy a perdu une élection. Jean-Louis Borloo a fondé un nouveau parti, l'UDI, pour Union des démocrates et indépendants. Eva Joly a proposé de rendre fériés les fêtes de Yom Kippour et de l'Aïd el-Kébir. Cécile Duflot est devenue ministre. Corinne Lepage n'a pas réussi à réunir ses 500 signatures pour se présenter à l'élection présidentielle. Marine Le Pen a prétendu qu'elle n'aurait jamais ses 500 signatures. En 2012, Nathalie Kosciusko-Morizet croyait qu'un ticket de métro coûtait 4 euros. Harlem Désir est devenu premier secrétaire du Parti Socialiste. Martine Aubry s'est recentrée sur sa mairie de Lille. En 2012, François Bayrou a encore essayé et il a encore perdu. Philippe Poutou a incarné la Révolution. Jean-Luc Mélenchon a fait résonner l'International, place de la Bastille. En 2012, Claude Guéant a été ministre de l'Intérieur. Manuel Valls a été lui aussi ministre de l'Intérieur. On a cherché les différences, on n'a pas trouvé. Arnaud Montebourg a voulu nationaliser Florange. Nicolas Sarkozy a passé une journée chez le juge pour parler de l'affaire Bettencourt. En 2012, Laurent Fabius a été ministre des Affaires étrangères. Alain Juppé a été lui aussi ministre des Affaires étrangères. On a cherché les différences, on n'a pas trouvé. Jean-Luc Mélenchon a fait taire Marine Le Pen. Marion Maréchal Le Pen est devenue députée de la République. En 2012, Marine Le Pen serait-elle déjà devenue la has-been de la famille ? En 2012, Nicolas Sarkozy, serrant des mains à la fin d'un meeting géant place de la Concorde, a caché dans sa poche sa montre Patek Philippe. Aurélie Filippetti et Najat Vallaud-Belkacem ont fait la première partie des meetings de François Hollande. Lors d'un meeting géant au Bourget, François Hollande a cité un Shakespeare qui ne se prénommait pas William. En 2012, Cécilia Sarkozy n'est pas revenue. Dominique Strauss-Kahn n'a pas été nommé ministre. En 2012, la France a voté 4 fois. Jean-Luc Mélenchon a rempli la plage du Prado. En 2012, la Corse s'est embrassée. Le sosie d'Arlette Laguiller s'est appelé Nathalie Arthaud. À Tulle, François Hollande a esquissé quelques pas de danse sur la vie en rose. En 2012, François Bayrou a appelé à voter pour François Hollande. En 2012, même Marielle de Sarnaise a dû douter de la stratégie de son grand homme. Le nouveau parti anticapitaliste a réalisé les meilleurs clips de campagne. Nicolas Dupont-Aignan a réuni 643 907 voix. Marine Le Pen, 6 421 426 voix de trop. En 2012, Bruno Le Maire a écrit un livre, Musique absolue, une répétition avec Carlos Kleiber, ouvrage sur l'un des plus grands chefs d'orchestre du XXe siècle. Jean-François Copé a écrit son manifeste pour une droite décomplexée. Vincent Peillon a annoncé qu'il augmenterait le nombre de professeurs. Vincent Peillon s'est dit favorable à la dépénalisation du cannabis. En 2012, la question du mariage pour tous a agité les chaumières. Jack Lang a perdu son poste de député. Nadine Morano n'a pas retrouvé son siège au Palais Bourbon. Éric Besson a disparu des radars. François Hollande a répété à plusieurs reprises « Moi, président de la République ». En 2012, David Pujadas a animé la vie politique française. Le chômage n'a cessé d'augmenter, la pauvreté a explosé, la confiance s'est effondrée. En 2012, la France était en crise. Jean-Luc Mélenchon a proposé de faire passer le SMIC à 1700 euros par mois. Olivier Falorni est devenu député de Charente-Maritime. Michel Alliot-Marie n'a pas voulu choisir entre François Fillon et Jean-François Copé. Valérie Trierweiler a trop utilisé Twitter. En 2012, François Fillon s'est cassé le pied en faisant du scooter à Capri. Nicole Bricq est restée un mois ministre de l'écologie. En 2012, le député Olivier Ferrand est mort. François Hollande a annoncé qu'il taxerait les plus hauts revenus à hauteur de 75%. Gérard Depardieu a souhaité rendre son passeport français. Le candidat Nicolas Sarkozy a proposé d'organiser un référendum à chaque fois qu'il y aurait un blocage. En 2012, la COCOE n'a pas fait son travail. L'UMP a oublié que les dom-toms étaient en France. Notre-Dame-des-Landes a continué de refuser l'aéroport. L'UMP a explosé. En 2012, on a découvert le doyen Gélard. En 2012, François Hollande a été élu président de la République française. Bertrand Delanoë est resté maire de Paris, Gérard Collomb maire de Lyon, Jean-Marc Ayrault et lui passaient de Nantes à Matignon. En 2012, Marine Le Pen a trouvé qu'on mangeait trop halal dans les cantines françaises. Jean-François Copé a rendu politique le pain au chocolat. En 2012, Jacques Cheminade a voulu emmener la France sur Mars. L'Europe ne s'est toujours pas faite. Brice Hortefeux a été condamné pour avoir menacé l'avocat des victimes dans l'affaire Karachi. Nicolas Sarkozy est redevenu un Français parmi les Français. Manuel Valls est devenu incontournable. Dominique de Villepin a tout perdu. En 2012, Chantal Jouanneau a quitté l'UMP pour rejoindre l'UDI. Ramayad a cru bon de parier sur Jean-Louis Borloo. Arnaud Montebourg a posé en marinière à la une des magazines. En 2012, François Hollande a trouvé son Henri Guénaud. Il s'appelait Taquilino Morel, c'est un des plus beaux noms de l'année. En 2012, on a également découvert la bien nommée Fleur Pellerin. En 2012, Nicolas Sarkozy était président de la République française. En 2012, François Hollande était lui aussi président de la République française. On a cherché les différences, on n'a pas trouvé. En 2012, on s'est dit vivement 2013.
Merci Amos, c'était donc ton bilan politique de l'année 2012. Dans quelques instants, nous écouterons celui de Thibaut. Mais avant cela, il est temps de découvrir qui est l'homme politique de l'année 2012. Fin d'année oblige, sont publiés dans les journaux tout un tas de palmarès. Sans langue de bois ne déroge pas à la règle et nous avons décidé d'élire la femme et l'homme politique de l'année 2012. La semaine dernière, lors de la première partie de notre bilan politique de l'année 2012, les femmes étaient à l'honneur. Cette semaine, place aux hommes et nous allons faire un tour de table pour savoir quel homme a marqué la politique française en 2012. Et on commence avec toi, Amos.
C'est un candidat à l'élection présidentielle qui est arrivé au pied du podium. On dit souvent que c'est la pire place, la médaille en chocolat. Mais en l'occurrence, de par notamment la campagne qu'il a menée, je pense qu'il mérite le titre d'homme politique de l'année. C'est le candidat et homme politique Jean-Luc Mélenchon. Alors pourquoi Jean-Luc Mélenchon ? Parce qu'il a soulevé quelque chose dont la France avait bien besoin en cette triste année, l'espoir. En effet, François Hollande, avec son beau slogan « Le changement, c'est maintenant », s'il a essayé de retrouver peut-être les accents du fameux « change » prôné par Barack Obama en 2008, était bien loin d'incarner ne serait-ce qu'un millième de ce qu'a pu faire passer Barack Obama en 2008. Aucun élan, malheureusement, François Hollande n'a pas su créer ce que justement Jean-Luc Mélenchon a su saisir, c'est-à-dire la capacité à incarner quelque chose, à incarner un nouvel horizon, un changement que la politique pourrait rendre possible. Alors Jean-Luc Mélenchon, il a pu rapprocher la politique de ce qu'elle a de plus noble, de la littérature, de l'art, de l'histoire, quelque chose qui peut saisir les électeurs, qui peut saisir les citoyens, qui peut les prendre vraiment au plus profond d'eux-mêmes, en leur laissant entrevoir de nouveaux horizons. Avec Jean-Luc Mélenchon, on a eu le sentiment que la politique pouvait faire quelque chose, que oui, c'était possible. Il disait, le SMIC à 1700 euros, alors pourquoi pas ? Chiche, allons-y. La révolution citoyenne, eh bien pourquoi pas ? Oui, allons-y. Alors, face aux rapaces de la mauvaise nouvelle, de la raison résonante, de l'ordre moral et économique, Jean-Luc Mélenchon a pu apparaître comme un vrai espoir, un échappatoire. Il a incarné, le temps de cette campagne, une sorte de romantisme dont le pays avait bien besoin en ces temps de crise. Mélenchon a recréé un espace politique alors que, au cœur de cette crise, qui n'est pas seulement économique et financière, il y a bien une crise politique, presque de conscience fondamentale, en Europe, qui est cette absence de politique, ce sentiment que ce sont des technocrates éloignés qui nous dirigent, eh bien Jean-Luc Mélenchon, lui, a dit que la politique, eh bien c'était toi, Thomas, c'était nous tous, c'était les citoyens qui avaient avant tout la parole face au cynisme et à l'impuissance que les principaux candidats, et que François Hollande notamment, ont prôné. À l'heure de Twitter, à l'heure de cette vague communication, il a pu incarner une figure de tribun, portant une parole forte, puissante, écrite, travaillée, qui manquait au discours politique. Il s'est d'ailleurs adressé à ceux qui sont principalement, à ceux qui ont besoin de politique, c'est-à-dire ces hommes, ces femmes qui souffrent, qui sont les principalement touchés par la crise, mais non pas pour leur proposer un discours de rejet, de haine, de crainte et de peur, non pas pour instrumentaliser la situation pour mieux taper sur une population particulière, non ? C'était un vrai discours de paix, de vie, lorsqu'il disait « Nous ne sommes qu'une humanité » sur la plage du Prado à Marseille, en appelant à une Méditerranée à construire, eh bien on pouvait y croire. Jean-Luc Mélenchon a incarné cet homme politique humaniste qui mettait l'homme avant tout dans une époque qui tend malheureusement à oublier les hommes.
Alors, blanc-seing total à Jean-Luc Mélenchon, Amos, humaniste, romantique, le changement c'est maintenant, ça c'est plutôt lent de Mélenchon à t'entendre, c'est le changement c'est possible ?
Le changement c'est possible et malheureusement ce n'est que possible, car Jean-Luc Mélenchon, une fin d'après-midi, place de la Bastille, évoquant les grandes heures de l'histoire de France, 1789, 1848, la Commune, la Libération, mai 68, soudain, il sembla pris au piège de lui-même. Il avait réuni une foule extraordinaire, des centaines de milliers de personnes étaient là. Et Jean-Luc Mélenchon a semblé comprendre qu'il n'avait pas les épaules, qu'il était incapable d'incarner ce changement, qu'il n'était qu'une parole qui pouvait susciter de l'espoir, mais que lui, Jean-Luc Mélenchon, ne pouvait être le grand homme, ne pouvait être plus que la voix d'une campagne. Non, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas l'homme politique de la décennie, ne sera pas un nouveau Robespierre, ne sera pas un grand homme politique apte à changer profondément les choses. Il n'est que le héros au sens de rapporteur de nouvelles, au sens d'homme qui parle, mais il n'est pas l'homme qui fait. Ainsi, en ce soir, place de la Bastille, il n'a pas été capable de dépasser ce qu'il incarnait, de transformer en acte, ces mots qu'il portait pourtant si bien. C'est bien l'homme de l'année politique 2012, car à l'image de cette année, il n'a pas fait grand-chose.
Pas l'homme politique de la décennie, mais l'homme politique 2012, c'est déjà bien.
Alors à côté d'Amos, dans ce tour de table, Thibaut, que j'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Thomas. Bon alors, de mon côté, j'ai pas réussi à trancher, et je voudrais faire une double réponse, une réponse en pique d'une part, et puis un peu plus sérieuse après. Donc pour la pique, je dirais que la personnalité politique qui s'en sort le mieux cette année parce qu'elle a enfin trouvé sa vraie place, eh bien c'est, roulement de tambour, Nadine Morano, parce que c'est elle qui, en perdant toutes ses charges officielles et en devenant militante UMP, revenons à des choses simples, eh bien a trouvé un petit peu ce qui lui correspondait le mieux dans le paysage politique français. Et puis comme ça à chaud, je dirais que la vraie personnalité politique de l'année, c'est notre ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, parce qu'à mon avis, il se positionne assez bien, et je dirais comme ça qu'on va entendre parler de lui dans quelques temps pour des postes encore plus importants. Voilà, petite analyse sans prétention, mais voilà qui j'élis pour la personnalité politique de l'année.
Alors je te pose la même question qu'à Amos et Thibaut. Tatiana, bonjour d'ailleurs, je te passe à
Jeanne
Cleu. Quel est pour toi l'homme politique de l'année, Tatiana ?
Oui, alors moi j'ai nommé pour 2012 Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif. Alors pourquoi ? On l'a découvert finalement fin 2011 aux primaires socialistes. Une belle révélation, oui, un certain charme, certainement, hein, politique. C'est un homme qui sait parler, c'est aussi un homme qui sait se montrer. On l'a vu, le petit coup de la marinière au Parisien Magazine. Et d'ailleurs, Roselyne Bachelot l'a souligné, il était craquantissime. Alors voilà, je pense que vraiment, c'est l'homme de l'année.
En fait, complètement sous le charme d'Arnaud Montebourg, hein.
Alors peut-être, oui.
Encore plus maintenant qu'il a quitté Audrey Pulvar ou c'est l'effet ? Je veux tout savoir.
Écoute Thomas, on verra bien, mais pour moi, c'est l'homme de l'année, Arnaud Montebourg.
Marie-Ève, alors je ne sais pas s'il faut vraiment que je te donne la parole dans ce contexte, dans cette émission, parce que la semaine dernière, pour nos auditeurs fidèles, tu nous as fait un portrait d'une femme politique anguille.
Le coup de l'anguille.
Le coup de l'anguille va-t-il être réitéré, Marie-Ève ?
Alors Thomas, je te rassure, en ces temps de crise, j'ai choisi une valeur sûre pour l'homme politique de l'année 2012. Ma figure fétiche depuis quelques années. Donc après les femmes anguilles, on aura les totems fétiches. Une figure donc insupportable, exaspérante et donc détestée pour certains, tandis qu'elle représente une sorte de figure tutélaire, un héros contestataire et ardent révolutionnaire pour les autres. Tu l'auras sûrement reconnu, et Tatiana aussi, et vous aussi, Thibaut et Amos, il s'agit de DCB.
DCB.
Bah oui, ça marche moins bien que DSK malheureusement. Et oui, c'est Daniel Cohn-Bendit, on l'a donc mentionné la semaine dernière.
Daniel.
Ah bah voilà. D'abord, il est vrai, Dany n'a pas fait beaucoup parler de lui en début d'année. Il est cependant important de noter qu'il est devenu, en avril dernier, membre du conseil d'administration de l'université Paris 10.
Ah oui.
Un pied de nez de l'histoire, oserais-je dire, sous le regard bienveillant des historiens présents autour de cette table.
Nanterre.
Car siéger au conseil d'administration d'une université pour quelqu'un qui a fait le siège de la Sorbonne, c'est tout de même assez notable.
Ah, ou et puis peut-être, le mouvement de Nanterre, il l'a lancé depuis cette fac.
Quand
quoi.
Même, oui, en plus. Ou mais peut-être est-ce un moyen de mieux infiltrer le système pour encore mieux le subvertir. Car je suis sûre que Dany a quelques idées derrière la tête et aussi
ouais,
plus d'un tour dans son
tout,
sac.
Hein.
Oh non, on verra qu'il ne vieillit pas tant que ça. La preuve, en septembre, Dany se réveille. Le 23 septembre dernier, il déclare donc, après le nom d'Europe Écologie Les Verts au traité européen, qu'il suspend son adhésion au parti écolo, je cite. Et donc, le parti écolo qui était pourtant un rassemblement dont il a favorisé la création en 2008. Le Schtroumpf grognon, comme on le surnomme, aurait-il alors définitivement claqué la porte des Verts, faisant passer ses convictions avant tout le reste et refusant tout compromis et tout affadissement de ses positions ? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Parce que 3 jours plus tard, il annonce la création d'un think tank Europe et écologie.
Oh yeah, Mary Head.
Un think tank.
Yeah.
Écologique.
Ecology power.
Non mais là, c'est vous qui ruinez. Vous avez fini de me casser à chaque fois. Pour promouvoir donc une approche pragmatique mais ambitieuse de l'Europe. Et comme dans tout bon couple, il faut bien un gros clash avant de pouvoir de nouveau discuter. C'est pour ça que je l'aime aussi, Dany. En tant que peut-être aussi que futur prof et surtout européaniste convaincu, je ne peux donc qu'approuver cette tentative de réconciliation et cette prise de conscience de, je cite à nouveau, la responsabilité de rendre notre vision de l'Europe plus pédagogique. Et c'est justement ce qu'il a fait également dans la même période, en octobre, en publiant avec Guy Verhofstadt un manifeste pour une Europe fédérale intitulé « Debout l'Europe », sous-titré « Manifeste pour une révolution post-nationale en Europe ». Mais je n'en dis pas plus sur le sujet, je vous invite simplement à réécouter la très bonne chronique de Jérôme sur « Dans le vu d'Europe » du magazine politique de Sans langue de bois numéro 6 sur le sujet. Et last but not least, pour continuer dans les anglicismes,
complètement bilingue.
Je terminerai par un dernier fait marquant de DCB cette année. Toujours en septembre, décidément, il était très actif à ce moment-là. Il a en effet accepté de devenir le président d'un club de foot. Le saviez-vous ?
Non, pas du tout.
Et pas n'importe lequel, le club de foot de son fils, le club de foot autogéré de Francfort, le FC Gutesding, c'est-à-dire...
Gutesding
bien... Après l'anglais et l'allemand.
La bonne chose,
c'est-à-dire c'est exactement, ou bien joué.
Francfort,
t'es sûre. Ich mag Daniel Kohn-Bendit.
Magnifique, on s'internationalise, merde.
Bref, vous l'aurez compris, je suis supporter de Dany sous toutes ses couleurs. Oh. Que ce soit Dany le rouge, Dany le vert ou Dany vert très pâle, comme en ce moment.
Et surtout de la Gooding.
Mais en espérant toutefois que notre cher Dany ne soit pas en train de tomber malade.
Arzo.
Reviens-nous vite.
Ben, merci Marie-Ève pour ce choix. Moi, le mien, je vous le donne maintenant parce qu'on a fini ce tour de table, c'est Nicolas Sarkozy. Oui, vous avez bien entendu, Nicolas Sarkozy, pour moi, c'est l'homme politique de l'année. L'homme qui a perdu, avec 48,36% des suffrages exprimés le 6 mai 2012 face à François Hollande. Oui, le premier président depuis 30 ans à briguer un second mandat et à être battu. Comparable en cela à Valéry Giscard d'Estaing, le coup de pouce de l'époque du RPR à Mitterrand, remplacé seulement par une coalition politique nationale contre le soldat Nicolas, qui transforma le second tour de l'élection présidentielle en étrange plébiscite. D'ailleurs, au soir du 6 mai, dans la foule, en délire de Solferino, sur les chemins de la Bastille, ce qui me choqua alors, ce ne fut pas ces drapeaux étrangers, peut-être plus visibles que les drapeaux tricolores, mais les Sarkozy c'est fini et autres Sarko ont paniqué, plus au nord, de loin, que les Vive Hollande ou les Merci François. Finalement, le seul état de grâce de l'actuel président, ce fut quand il monta sur scène, enfin, après son Tulle Paris Express, et que la foule, pour lui seul, exulta. Mais le lendemain, déjà, tout était fini. La grâce retombait comme on rate un soufflet.
Sniff.
C'est qu'en politique, les victoires par réaction sont des défaites en anticipation. Le 6 mai, ce n'est pas François Hollande qui a gagné, c'est Nicolas Sarkozy qui a perdu. Et tant pis pour tous ceux qui y croyaient, qui espéraient un renouveau de 81. À gauche, les François se suivent et ne se ressemblent guère. Mitterrand avait rassemblé la gauche, les gauches. Si bien qu'il avait fini par rassembler la France autour de la gauche, sa gauche. Hollande n'a pas rassemblé la gauche. Il a tout de même réuni la France, mais pas autour de son projet, pas autour de ses 60 propositions, autour de son slogan « Le changement c'est maintenant » et de son comportement normal. Victoire de la forme sur le fond, en somme. François Hollande ou l'anti-Sarko, Celui qui s'arrête au feu rouge, qui prend le train, qui se déplace sur les plateaux de télévision pour se faire interviewer. Et vous trouvez ça moins gadget qu'une Ray-Ban et une Rolex ? Le 6 mai, François Hollande a peut-être gagné. Pourtant, son discours et celui de son gouvernement restent un discours de campagne, fustigeant toujours le président sortant, le gouvernement précédent, sur l'air maternel du « c'est pas moi maîtresse, c'est lui ». Nicolas Sarkozy est parti, rien n'a changé. On parle toujours autant de lui. Même, certains finissent par le regretter. Un comble. En politique, les absents ont, chacun le sait, toujours raison. La cote de popularité du plus jeune retraité de France n'a en effet jamais été aussi haute. Et en septembre dernier, des sondages rapportaient que, pour les Français, le président sortant aurait été plus efficace pour résoudre les problèmes du pays que l'actuel président. Au plus bas quant à lui, dans les enquêtes d'opinion, lui le socialiste obligé de se livrer à des coupes claires dans le budget et à augmenter prélèvements et taxes. Situation qui en rappelle étrangement d'autres au sud de l'Europe, mais surtout non, ne prononçait pas le mot d'austérité. Loin de tout cela, arborant, selon Roselyne Bachelot, un style « bad boy » au mot revisité, « sick », Nicolas Sarkozy prend à l'ombre la lumière, enchaînant les conférences bien payées à l'étranger, siégeant en sage, et apprenant que le silence est d'or. Pour Nicolas Sarkozy, les sondages se suivent et se ressemblent. En septembre, une autre enquête d'opinion place l'ancien président en tête auprès des sympathisants de droite pour l'emporter en 2017 devant François Fillon et Jean-François Copé. Vous savez, ceux qui ont tous les deux remporté les élections à la présidence de l'UMP. Là encore, Nicolas Sarkozy jubile, récitant en boucle dans son salon près de Carla « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Il n'est plus à la tête de l'UMP, l'UMP perd la tête. C'est qu'on avait fini par oublier la prouesse de l'ancien maire de Neuilly. Avoir réussi, pendant près de 10 ans, à unifier ce monstre qu'est l'UMP, composé de gaullistes, humanistes, démocrates, libéraux, n'en jetez plus, et destiné à braconner en terre extrême. Parti, son fauteuil paraît bien trop grand pour quiconque à l'UMP, un comble pour celui dont on s'est tant moqué de la taille. Fillon et Copé s'entretuent, Sarkozy ressuscite. Cette lutte fratricide, il en a rêvé. Il a même dû fabriquer quelques petites poupées vaudou et exécuter des danses chamanes autour. Mais cela a dépassé ses espérances les plus folles. Il voulait que le roquet de Meaux et le gros pâteau de Saint-Bernard s'étripent pour revenir à point nommé, son parti redressé. Mais pour cela, Nicolas, il faudrait justement qu'il reste un parti à sauver. Or, il y a le feu à la maison UMP. Le parti est divisé, pris en otage par un terroriste briard, les pires. Et à l'Assemblée, la rupture est consommée. Les sacs Nicolas revient, confectionnés par la femme de Luc Ferry, ne peuvent décidément pas masquer les désagréables sensations de déjà-vu, comme un retour en arrière, Copé en Chirac, Fillon en Balladur. Devant le péril, Nicolas Sarkozy est d'ailleurs, ça ne trompe pas, sorti de sa réserve, proposant un référendum avorté sur l'air de « Putain, ces deux cons vont tout faire foirer !» Oui, on n'a jamais autant parlé de Nicolas Sarkozy qu'en 2012, tantôt en homme à abattre, tantôt en sauveur désigné. Et pour toutes ces raisons, il mérite bien, selon moi, le titre d'homme politique de l'année. Néanmoins, pas sûr qu'il soit celui de 2013, et encore moins de 2017, désolé. Il aurait pu être le sauveur de l'UMP qu'il a quitté. Mais en 6 mois, l'UMP a changé, les clivages se sont exacerbés et Nicolas Sarkozy apparaît plus comme une référence à convoquer qu'un homme providentiel à rappeler. Finalement, la seule chose qui pourrait unir Copé et Fillon, ce serait d'empêcher le retour de Sarkozy, l'homme politique de l'année.
Yeah, on s'applaudit en régie.
Voilà, on finit donc ce tour de table avec mon choix, Nicolas Sarkozy. Vous avez donc écouté tous ceux qui ont marqué, selon nous, la politique en 2012. N'hésitez pas, chers auditeurs, à donner votre avis sur la page de l'émission et répondez-vous aussi à cette question. Qui, selon vous, est l'homme politique de l'année ? Alors Thibaut est toujours en studio, comme Amos tout à l'heure, et comme Caroline et Louis la semaine dernière, il est temps que tu nous livres, Thibaut, ton bilan politique de l'année 2012.
Merci Thomas, et bonjour à tous. Alors faire un bilan de l'année politique, c'est évidemment essayer de prendre un peu de recul. Alors pour ça, j'ai fermé les journaux, j'ai éteint la télévision et notamment les chaînes d'infos, j'ai coupé les sites internet d'information pour me demander ce que j'avais retenu des mois écoulés. Car évidemment, je ne l'apprendrai à personne. La vie politique de 2012 a été riche en événements, de la présidentielle à la primaire UMP qui n'en était pas une, de l'absence salvatrice de Sarkozy au probable manque de présence de Hollande, ou encore du besoin de changement au sentiment de l'identique. Alors pour faire le bilan et résumer un peu cette année mouvementée qui s'achève, eh bien, il faut à mon avis prononcer un mot pour tout englober, le mot « pouvoir ». C'est lui qu'on a vu passer de la droite à la gauche, c'est lui qu'on a vu abandonné par l'UMP, c'est lui qu'on a vu convoité par les Verts, et j'en passe. C'est donc évidemment en pensant au pouvoir qu'on comprend ce qui s'est passé en 2012, qu'on comprend pourquoi la droite a éclaté, mais aussi, à l'inverse, pourquoi non seulement le Parti Socialiste, mais aussi une grande partie de la gauche ou du centre-gauche, restons calmes, a su taire ses différences, ses différends, pour se partager le pouvoir. Je crois par exemple me souvenir que les écologistes, j'en parlais il y a un instant, ont eu quelques raisons de s'éloigner du PS dès le printemps, et puis ils ont renoncé tant au gouvernement qu'à l'Assemblée. Dans quel but ? On pourrait dire que c'est évidemment pour pouvoir défendre dans les plus hautes sphères le développement durable, c'est-à-dire une économie viable dans une société juste avec un environnement sain. Mais évidemment, ce n'est pas si sûr que ça. On peut en tout cas en douter et se dire que l'idée principale, c'était de garder et d'exercer le pouvoir. Le problème, c'est que par conséquent, l'écologie n'a pas été vraiment au goût du jour, et c'est à mon sens une grande absente de l'année qui s'achève. Mais que dis-je de l'année, puisque cet abandon remonte au moins à la fameuse déclaration de Nicolas Sarkozy, bien avant 2012, lorsqu'il disait, souvenez-vous, l'écologie, ça suffit. Alors, on nous annonce un grand débat sur la transition énergétique. Il serait temps d'y penser, et espérons que 2013 sera un temps de réflexion sur ces sujets importants, du pétrole à nos modes de vie, aux énergies renouvelables, pour que nous fassions enfin des choix cohérents. Alors si on revient au pouvoir et qu'on prend cette fois-ci le cas de l'UMP, pourquoi la situation est-elle en passe de se régler ? Eh bien parce que dans le parti, tout le monde sait bien qu'il va falloir reconstruire la machine pour reprendre le pouvoir, évidemment, à plus ou moins long terme. Car n'oublions pas que ce qui a le plus manqué à la droite durant cette période de crise, et beaucoup l'ont dit, ça a été de ne pas pouvoir s'opposer aux socialistes, alors qu'on aurait pu attendre, comme réponse à cette question, le souhait de réfléchir à des questions plus importantes. Alors, j'ai bien conscience que ce petit bilan de l'année 2012 est un peu trop caricatural, un peu trop simpliste aussi, mais je vais m'en tenir là, pour en rester à ce sentiment naïf et général, et malheureusement un peu trop partagé, que la classe politique n'est intéressée que par le pouvoir, ce qui doit nous inciter, chacun d'entre nous, à nous intéresser un petit peu plus au fond des problèmes, en espérant faire tache d'huile auprès de ceux qui s'occupent de politique. Et puisque 2012 a été l'année de la répartition des pouvoirs, et que nous aurons l'an prochain une année sans élection, eh bien souhaitons que cette année 2013 qui arrive soit l'année des débats, des discussions, des décisions, bref, que nous toucherons le fond, mais le bon fond.
Merci Thibault. Vous avez donc entendu les 4 bilans de l'année 2012 en politique de nos éditorialistes. N'hésitez donc pas à réagir sur la page de l'émission et à donner votre avis.
Alors pour terminer, on change d'échelle, vous êtes habitués à ça, puisque c'est Jérôme qui prend place derrière le micro de Sans Langue de Bois pour nous faire un numéro de Vue d'Europe spécial bilan 2012. Bonjour Jérôme.
Bonjour Thomas.
Alors, en ce début d'année 2013, tu as décidé de nous dévoiler ton palmarès politique de l'année 2012, spéciale vue d'Europe. Alors, que fallait-il retenir de la politique européenne ? Tour d'horizon de l'Union, et on commence par le bon signal de l'année.
Oui, le bon signal de l'année, c'est ce qu'on appelle l'initiative citoyenne européenne. Depuis le 1er avril dernier, et ce n'est pas un poisson, les citoyens de l'Union, s'ils réussissent à former 1 million répartis sur 7 États membres, conditions qui ne sont pas inaccessibles, eh ben ils sont juridiquement en droit de demander à la Commission européenne de légiférer dans un domaine qu'ils choisissent, relevant des compétences de l'Union. Jusque-là, c'était la Commission et elle seule qui détenait le monopole de l'initiative législative en Europe. Ce n'est donc là plus vraiment le cas. Proposé par Jürgen Mayer, président du Bundestag, le Parlement allemand, à la Convention européenne, cette initiative introduit dans l'arsenal juridique de l'Europe un élément déterminant de démocratie participative, rapprochant les citoyens européens de leurs structures institutionnelles, puisqu'ils peuvent désormais suggérer des propositions de loi ou de directive à la Commission.
Alors, bon point pour Jürgen Mayer en cette année 2012. Mauvais signal, en revanche, envoyé par la nomination d'un homme, Yves Mersch.
Oui, Le mauvais signal de l'année, c'est bien un homme. Il s'appelle Yves Mersch, il est luxembourgeois, il a 63 ans. Et il s'est fait nommer par le Conseil des 27, contre le vote du Parlement européen lui-même, au directoire de la Banque Centrale Européenne. Ce qui amène certains à parler de déni de démocratie, puisque le choix des représentants des citoyens européens, les parlementaires, n'a pas été respecté. Et ce, d'autant plus que sa présence est un véritable échec pour la parité, puisque cela signifie qu'il n'y aura pas du tout de femmes dans ce directoire, du moins jusqu'en 2018, si rien ne change. Enfin, cette nomination confirme le poids exorbitant du Luxembourg dans la conduite économique des affaires européennes, bien au-delà de la juste proportion de son poids réel à l'échelle du continent, et bien en deçà de ce que les citoyens peuvent légitimement attendre de leurs dirigeants économiques, au vu de la mauvaise volonté affichée du Grand-Duché dans la lutte contre les paradis fiscaux. Bref, un mauvais signal démocratique.
Yves Mersch, mauvais signal de l'année 2012, et toujours un homme, mais on passe du Luxembourg à la France pour le provocateur de l'année pour la politique européenne, c'est Nicolas Sarkozy, c'est ça ?
Oui, la provocation de l'année, c'était le 11 mars 2012, au moment où la campagne présidentielle française battait son plein. Nous avions un Nicolas Sarkozy paniqué par la perte de vitesse de sa popularité dans les milieux populaires, perte de vitesse sur laquelle François Hollande ne parvenait pourtant pas à capitaliser. Tout à coup, tournant dans le discours idéologique du président candidat, celui-ci se met à fustiger l'espace Schengen, l'Europe passoire, ouverte à tous les vents, et les migrations internes à l'Union, en exigeant une révision du traité de Schengen, avec l'instauration d'un gouvernement de l'espace européen de libre circulation, et la possibilité d'en exclure un État défaillant qui ne parviendrait pas à contrôler ses propres frontières. Il est même allé jusqu'à menacer de suspendre la participation de la France à Schengen s'il n'y avait pas de changement à ce sujet dans les 12 mois qui suivaient. À Bruxelles, même si l'on jouait en public du haussement d'épaules face au coup de menton de M. Sarkozy, c'était le tollé. Et si c'est vraiment le fond de sa pensée, que ne s'y est-il pas intéressé dans les 10 années qui ont précédé, se demandait-on. Ah, que ne faut-il pas faire pour récupérer un peu de voix ?
Alors la provocation de l'année, c'était dans le contexte de l'élection présidentielle française, c'était Nicolas Sarkozy. Et en France, le mot de l'année, c'est le changement de celui qui a gagné les présidentielles françaises, François Hollande. Mais alors, qu'en est-il au niveau européen ? Quel serait le mot de l'année ?
Le mot croissance. Ce mot que plus personne parmi les dirigeants de l'Union européenne ne voulait entendre depuis des années, lui préférant celui de rigueur budgétaire. Ce mot que François Hollande a déterré pendant la campagne présidentielle pour ne pas avoir à cautionner le traité signé par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Ce mot que, depuis, tous les chefs de gouvernement nationaux de l'Europe ont repris en cœur, mais moins à l'unisson que dans une cacophonie générale où personne ne l'utilisait dans le même sens. Nous avons un pacte budgétaire, nous devons revenir en arrière et faire un pacte de croissance, martelait le candidat socialiste. Maintenant que de candidat il est devenu président, on a pu se rendre compte que ce mot de l'année, croissance, était aussi l'arnaque de l'année. Car ce changement de traité revendiqué haut et fort dans les promesses de campagne n'a pas vu le jour et l'on s'est contenté de quelques petites modifications à la marge pour ne pas trop effaroucher nos germaniques voisins. Et pour la croissance, du coup, que fait-on ? Jean-Claude Juncker, président de l'Eurogroupe et Premier ministre du Luxembourg, a répondu à la question non sans humour. « Oh, la politique de croissance en Europe, ce n'est pas une affaire de traité, mais ce sera une affaire à traiter. »
Alors pour cette année 2012 en Europe, un nom commun, vous l'avez compris, croissance, et puis un nom propre aussi, Nobel. Et c'est également la récompense de l'année.
Oui, j'en ai déjà parlé à ce micro, mais je ne peux vraiment pas la passer sous silence dans cette rétrospective de l'année 2012. Il s'agit du prix Nobel de la paix, décerné à l'Union européenne pour saluer son œuvre de pacification au sein de ses frontières et ailleurs dans le monde depuis une 60aine d'années. Et la transformation de ce vieux continent de guerre en continent de paix. La remise officielle du prix s'est déroulée le 10 décembre dernier à Oslo, devant une 20aine de chefs d'État et de gouvernement, dont François Hollande, Angela Merkel, Mario Monti et Mariano Rajoy. Et pour une fois, les tensions internes à la direction de l'Union ont heureusement été remisées au placard, puisque c'est ensemble que le trio formé par le Belge Herman Van Rompuy, président du Conseil européen, le Portugais José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, et l'Allemand Martin Schulz, président du Parlement européen. Seul petit bémol, l'absence remarquée de David Cameron, le premier ministre britannique, qui a délégué sa présence donc à son numéro 2, Nick Clegg, plus enthousiaste que lui vis-à-vis de l'aventure européenne, et de Václav Klaus, le président tchèque, qu'on peut qualifier d'anti-européen. Mais sans doute valait-il en effet mieux une absence assumée qu'une participation hypocrite.
Alors, je regardais quand tu disais le trio formé par l'exécutif, on va dire, européen. On a donc le Belge Herman Van Rompuy, président du Conseil européen bruxellois. Le Portugais José Manuel Barroso, président de la Commission européenne bruxellois. Et l'Allemand Martin Schulz, président du Parlement européen strasbourgeois. Et c'est justement Strasbourg, au détriment de Bruxelles, la ville de l'année.
Et oui. Rappelons-le, le siège du Parlement européen est situé à Strasbourg. Et celui-ci s'y assemble une semaine par mois pour les sessions plénières et 3 semaines dans le mois à Bruxelles. Or, de manière épisodique, ressurgit régulièrement comme un vieux serpent de mer le débat visant à demander le transfert de l'ensemble de l'institution représentative dans la capitale belge. Et ce débat a empoisonné toute cette année 2012 jusqu'à ce que, en décembre, la Cour de justice de l'Union européenne ne se prononce et vienne confirmer les textes juridiques localisant le Parlement à Strasbourg. Les délibérations du Parlement relatives au calendrier des périodes des sessions parlementaires pour 2013, qui donnaient l'avantage à Bruxelles en fusionnant les semaines strasbourgeoises, sont purement et simplement annulées. Strasbourg restera donc la règle et Bruxelles l'exception. Symboliquement, c'est une décision forte. Du fait de son histoire, la ville de Strasbourg incarne pleinement l'idée européenne, marquée par les déchirements de la vieille Europe et par la réconciliation franco-allemande, et bien située par rapport à l'ensemble du territoire européen. Mais désormais, il faut regarder de l'avant. Il est vrai que le maintien de 75% du temps parlementaire à Bruxelles n'aide pas à réduire les frais de transport des eurodéputés et à bien distinguer pour tout un chacun les prérogatives du Parlement de celles de la Commission également située à Bruxelles, comme tu l'avais dit. Aussi peut-on souhaiter à Strasbourg d'accueillir à l'avenir 100%, et non pas 25%, des sessions parlementaires et de se doter de structures d'accueil et d'accessibilité à la hauteur de son statut conforté déjà, désormais de capitale européenne de plein exercice.
Strasbourg 1, Bruxelles 0, et on reste à Strasbourg. Est-ce que tu vas nous parler d'une décision du Parlement européen qui vaut, dans ton palmarès, le titre de déblocage de l'année?
Oui, c'est le brevet unique européen. Après 40 ans de discussions sans résultat, le Parlement européen a enfin créé, le 11 décembre dernier, ce brevet harmonisé qui permettra de protéger les inventions directement au niveau de l'Union européenne, sans qu'il y ait besoin, comme c'était le cas jusqu'ici, de déposer une demande dans chacun des États membres. Ce qui ne manquait pas de décourager les entreprises européennes qui renonçaient souvent à protéger leurs inventions au risque de se les faire piller, ce qui n'était pas le cas aux États-Unis ou en Chine. Mais petit bémol encore, ce brevet unique ne concernera que 25 pays sur 27, puisque l'Italie et l'Espagne ont refusé de participer à cet accord officiellement pour des raisons linguistiques.
Malgré les nuances que tu apportes, une décision historique tout de même pour ce déblocage de l'année, décision historique également pour l'accord de l'année.
Oui, il s'agit de l'accord de principe sur une supervision unique des banques européennes. L'enjeu de ce mécanisme, qui doit encore être soumis à la lecture et à l'adoption du Parlement européen l'année prochaine, et de permettre à terme la recapitalisation des banques en difficulté en utilisant le fonds de sauvetage de la zone euro, dans la perspective d'une union bancaire européenne à l'horizon 2014. Cela aurait pu permettre d'éviter certaines des crises bancaires qui ont secoué l'Union récemment, comme quoi la crise peut parfois avoir du bon. Seuls 3 États, là encore sur les 27, ont d'ores et déjà annoncé le refus de participer à ce mécanisme, comme par hasard le Royaume-Uni, la Suède et la République tchèque.
Alors pour clore ce palmarès, sorte de bilan, le projet de l'année?
Oui, comme vous le savez, c'est mon dada, le sursaut fédéral. Mais ce sursaut fédéral est difficile à concevoir sans l'avis, voire contre l'avis, des citoyens européens. On nous promet une fédération économique, budgétaire et fiscale de la zone euro, mais seulement pour 2018 au minimum. Autant dire que si jamais ce projet semble commencer un jour à se concrétiser et à pointer le bout de son nez, nous aurons et le temps et l'occasion de l'aborder dans un prochain Vue d'Europe.
Évidemment, merci Jérôme.
De rien.
Notre émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivie. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page de l'émission.
Merci à Xavier, Will, Antoine et Fabien La Technique. Oui, il y avait du monde en régie, sans qui cette émission n'aurait pas pu se faire. Merci également à Colline et Jérôme pour leur aide dans la préparation et la réalisation de cette émission.
Merci enfin à nos deux éditorialistes de la semaine, Thibaut et Amos. Amos que l'on retrouve la semaine prochaine aux côtés de Caroline, de Tatiana et de Thomas dans Sans langue de bois s'amuse, une émission de jeu avec l'actualité politique que je vous propose pour animer cette rentrée 2013.
Encore une fois, bonne année et tous nos voeux de bonheur et de réussite. À la semaine prochaine donc, et d'ici là, même avec un litre d'alcool dans le sang après le réveillon du 31, surtout, n'oubliez pas, gardez l'esprit critique.